Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Angela habite plusieurs mois par an sur un bateau de croisière qui navigue sur le fleuve Volga en Russie. Angela nous parle de sa vie sur les flots. Donc regarde ailleurs, c'est des parcours de vie. C'est des expériences de gens que je rencontre un peu partout à l'étranger ou en France. Et là je me retrouve sur un bateau russe qui est en train de naviguer sur la Volga. Dans ce bateau, plein de monde, beaucoup de voyageurs, mais aussi le staff. Et une grande partie du staff, une grande partie du personnel est francophone, parce que beaucoup de voyageurs sont français, ou francophones, hein, y a des Belges aussi sur ce bateau. Et avec moi Angela, donc dans cette émission on va faire un peu ta connaissance, j'ai envie de te rencontrer, j'ai envie de savoir qui tu es et quelle est ton histoire avec la langue française. Donc on va revenir peut-être il y a longtemps dans ton enfance, et j'aimerais que tu me racontes, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu te diriges vers la langue française ?
Eh bien, donc, bonjour, puisque je suis déjà présentée, je m'appelle Angela, je viens de Nijni Novgorod. C'est une grande ville en Russie. Auparavant, elle occupait la troisième place, maintenant c'est la cinquième place. Et bien évidemment, donc, il y a un grand pourcentage de touristes qui viennent d'une autre ville. C'est pourquoi je crois donc qu'il y a pas de... Il y a pas mal de centres linguistiques, y compris les universités linguistiques et les écoles déjà, qui préparent dès l'enfance les futurs linguistes. Et moi, disons, je suis bien tombée parce que juste à côté de ma maison, il y avait une école. C'était à mon époque, c'était encore à l'école, et puis c'est devenu un lycée spécialisé en français. Bah, je n'avais pas le choix, disons. J'étais inscrite dans cette école parce que chez nous, disons, alors tu peux être inscrit à l'école la plus proche de chez toi. Donc voilà, j'étais inscrite et comme ça a commencé mon histoire avec ma langue française. Et comme ça, je suis tombée amoureuse de la langue française. Et puis après, donc déjà à l'université, j'ai commencé à penser à mon futur travail, à mon métier, ma profession, tout ça. Et puisque j'étais à la faculté des futurs pédagogues, des futurs profs, donc voilà, j'ai commencé un peu à creuser dans la culture et tout ça, et j'ai beaucoup aimé non seulement la langue, mais aussi la France comme pays. Et là, étant encore étudiante, j'ai commencé à travailler à bord des bateaux comme accompagnatrice. Ça fait déjà 10 ans que je suis à bord des bateaux.
On va en parler de ce métier au bord des bateaux, mais quand même, donc si je comprends bien, tu es arrivée à apprendre le français un peu par hasard. C'est parce que l'école la plus proche de chez toi, c'était une école où on pouvait apprendre le français, mais c'est complètement par hasard.
C'était par hasard, comme ça. Donc, c'était l'école qui était la plus proche. Et comme ça, je suis bien tombée. Il n'y avait pas même le choix.
Donc, ce n'est pas tes parents qui ont fait le choix pour leurs enfants d'apprendre une langue en plus. Ce n'est pas tes parents qui étaient passionnés par la culture française ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que l'école permettait d'apprendre le français.
Ouais, c'est ça, exact. Donc, c'était l'école qui proposait à la langue étrangère le français.
Et à quel moment est-ce que tu as eu dans ton parcours l'occasion de venir en France la première fois ?
Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est que, disons, on n'est pas tous très riches en Russie et il y avait des possibilités de partir en France en échange avec d'autres élèves français, puisque notre lycée donc, faisait des échanges. C'est que donc seulement quand j'ai commencé à travailler, il y a 2 ans en fait, que j'ai pu visiter la France pour la première fois. Donc voilà, j'ai vu les vrais Français, les francophones qui sont venus en Russie, je leur ai parlé, mais je suis venue en France qu'il y a 2 ans.
Donc ta première visite en France, c'était il y a 2 ans. Et tu as quel âge aujourd'hui ?
Quelle question ! On ne pose pas cette question, jeune dame. Alors, j'ai 30 ans.
On ne pose pas cette question en Russie, ça ne se fait pas ?
Ça ne se fait pas. Donc on dit que... Donc voilà. Donc ça veut dire qu'à l'âge de 28 ans, j'ai visité la France. Pour la première fois, j'étais à Paris. Un seul jour. 2 jours. Un jour à Paris, et l'autre jour, c'était aux alentours de Paris. Et la ville d'Oran, je crois. Une ville ancienne avec un petit château. Voilà. C'est pas facile d'aller à l'étranger puisque d'abord il faut avoir le passeport, faut faire le passeport pour partir à l'étranger, il faut avoir le visa, il faut payer le billet aller-retour, ce qui coûte assez cher. Et bien sûr, donc tu peux pas partir sans rien dans la poche. Évidemment, si tu pars à l'étranger, tu penses déjà non seulement à toi-même, mais aussi à tes proches, tes amis, pour rapporter quelques souvenirs. Voilà, donc, c'est le côté financier qui m'a empêché.
Ouais, donc c'est vrai que le voyage, c'est quelque chose qui coûte cher. Et maintenant que tu as 30 ans, on se pose quand même la question de ton avenir. Comment est-ce que tu vois la suite? Est-ce que tu veux continuer à vivre en Russie et faire le guide? Ou est-ce que tu aimerais pouvoir changer de pays? Quels sont tes rêves? Quels sont les rêves d'une jeune fille de 30 ans?
Quels sont mes rêves? Bon, mes rêves... je voudrais bien voir un peu le monde. On sait, déjà, la France, je ne veux qu'une seule partie, que le centre, un tout petit morceau. Je voudrais bien les extrêmes, disons le nord, la Bretagne, le sud avec les montagnes, voilà le côté suisse aussi. Et j'espère bien, dans les quelques 3-5 ans à venir, de faire mon voyage, pas dans le monde entier, mais quand même la France, l'Europe, et peut-être m'installer quelque part pour travailler et pour essayer de pratiquer le plus possible en fait, non seulement le français mais aussi d'autres langues que j'apprends, parce que vraiment en fait, ce travail-ci donc, que je fais je peux le faire seulement pendant les zones touristiques, et là l'autre moitié de l'année je reste entourée par les Russes, disons, je peux pas pratiquer, je peux lire, je peux écouter, je peux regarder les films, mais donc la réaction elle ne vient qu'en en fait, en discutant avec les Français, voilà. Et donc voilà mes projets, même peut-être pour cet hiver-ci, d'essayer de sortir, de partir à l'étranger avec l'argent que je gagne, évidemment, pendant l'été.
Tu disais que tu veux, à un moment donné, prendre le temps de voyager. Mais est-ce que tu as le temps de voyager dans ton propre pays? Parce que si on prend la Russie sur une carte, c'est énorme.
Oui, la Russie, c'est énorme. Moi, mais disons, je n'ai vu, si on regarde la carte, déjà, une carte d'un mètre sur un demi-mètre, je n'ai vu qu'un petit millimètre, parce que vraiment, la Russie, c'est tellement vaste. Et moi, j'ai choisi le côté qui m'intéresse le plus actuellement, c'est le côté sud, c'est la région de la mer Noire, parce que là, sont concentrées les choses en fait, les plus impressionnantes pour moi, c'est les montagnes et la mer. Donc, c'est la région de la mer Noire, la ville de Sochi, où on a eu les Jeux Olympiques 2014. Et là, je visite cet endroit, j'essaie de le visiter, tous les ans, vers la fin de la saison touristique, quand je termine les bateaux. Cette année-ci, j'ai aussi planifié au mois de septembre, j'irai.
Donc à la fin de la saison touristique. Quand tu voyages comment? Tu voyages en famille? Tu voyages toute seule? Comment ça se passe dans ta vie? Quelle est ta vie?
Quand je voyage avec ma famille, avec ma sœur aînée, avec ma mère, donc on change, ça change. Et en fait, des fois on prend le train, des fois on prend l'avion. En fait, pour gagner le temps, on prend l'avion évidemment. Et bon, disons, c'est pas trop actif notre repos, parce que là, donc, après tout le travail qu'ils ont déjà, en fait, qu'elles ont, ma mère et ma soeur, elles préfèrent plutôt le repos passif. C'est la plage, les petits musées, côté montagne, les habitants. Chez les habitants, ça existe aussi, donc on peut venir chez les habitants donc, là, pour voir. Parce que là, dans la région de la mer Noire, c'est... la plupart des habitants, ce n'est pas les Russes. Ce sont plutôt en fait, les Arméniens, les Kabardes, en fait, comment ils s'appellent déjà, je ne me rappelle plus. En fait. Ce sont les peuples qui ont leurs racines caucasiennes. Là, c'est tout à fait autre culture. Donc là, c'est un repos tranquille, ce qu'on choisit. Mais des fois, par exemple, si je suis invitée par mes amis, donc, là, on essaie de voir plus, de bouger, de faire plus.
C'est vrai, quand on pense à la Russie, c'est un pays énorme, donc tu as aussi différentes ethnies. Hein. Tu parles de la race caucasienne, on parle des Slaves, mais qu'est-ce que c'est que les Russes finalement? Qui sont les Russes?
Les Russes russes, les Russes slaves, disons, c'est la plupart, mais ils sont concentrés plutôt dans la partie centrale du pays. Mais on est bien, disons, on est bien amis avec d'autres peuples qui habitent avec nous sur le territoire, donc c'est... Just keep silent. And in the places where you've been, nobody will say you've been seen. And I go to the woods once or twice a year, and I sing do-do-do when they shave my hair. And I can see the vultures, vultures. Starving vultures, vultures. And the old
can see the vultures, the starving vultures, in the old man's gold. I can see the vultures, the starving vultures, killing two.
Tu me racontes quels sont les stéréotypes qu'on a sur les Français. Je sais que les Français sont râleurs, ça c'est quelque chose dans beaucoup de pays du monde, on entend dire que les Français sont des gens râleurs. Et toi, et où êtes-vous en Russie, quand on parle des Français, quand on pense à la France, qu'est-ce qu'on a comme image qui apparaît à l'esprit ?
Je crois bien que, en réalité, ça dépend de la génération à qui on pose cette question. Par exemple, si vous posez cette question à ma mère, donc à la génération de ma mère, ils vont vous dire, oh oui, la France, donc c'est les maîtres de mode, de vin, de parfum, je sais pas, des films. Autres peuvent dire, donc oui, c'est la littérature, c'est les beaux-arts. Mais nous, par exemple, notre génération, on dirait plutôt, ah oui, les Français sont les grands voyageurs. S'ils parlaient, enfin, des générations des, en fait, des retraités, déjà, donc ils portent bien leur âge, ils sont très instruits, très cultivés, les personnes de culture qui, disons, qui respectent bien leur pays, qui respectent les pays qu'ils visitent, et les jeunes qui savent bien s'amuser, qui parlent plusieurs langues déjà, parce que chez nous, par exemple, notre génération, on n'est pas plus en fait, que bilingue, que c'est vrai, c'est pas trop souvent qu'on est trilingue, voilà. Mais les Français, ils parlent déjà les langues, en fait, des pays qui les entourent. Donc, voilà, ils parlent espagnol, italien, français, en fait, allemand. Et on a tous des stéréotypes différents. Là, c'est sûr. Mais moi, par exemple, pour moi, les Français, puisque d'après ma pratique que j'ai, c'est plutôt les retraités que je vois, les personnes bien sympas, sont les Français qui sont tranquilles, qui sont souriants, presque toujours de bonne humeur, parce que dans leur visage, déjà, dans leur regard, on voit que, ah voilà, que c'est beau la Russie, que vous êtes gentils, les Russes. Et ils sont des personnes qui viennent pour se reposer, même si vous dites qu'on est de vrais râleurs. Il y a toujours des râleurs dans toute nation, je crois. Mais pour moi, les Français, ce sont des personnes qui viennent pour se reposer, pour apprendre quelque chose déjà à leur âge, pour apprendre quelque chose, pour savoir encore plus, et qui aiment discuter. Ça, j'aime bien parce que, par exemple, au restaurant, on voit les personnes qui viennent pas pour manger, pour discuter. Ce qu'ils ont vécu pendant la journée. Et ça, c'est bien, je crois. Ils passent pas le temps à regarder par la fenêtre, à manger, à goûter de la vodka, mais vraiment pour discuter ce qu'ils ont vu et peut-être donner leur vision à nous, à Russes, qu'on voit pas.
Parce que toi, t'as l'impression que les Russes sont pas dans le même échange, dans le même dialogue. Il n'y a pas cette ouverture, cette envie de communiquer avec les autres.
Déjà, en fait, on n'a pas le même caractère que les Français. Disons, on n'a pas le même comportement que vous. Ça s'explique très facilement, déjà, par la situation économique, politique, par le climat, par côté financier. Donc, ça s'explique pourquoi on n'est pas les mêmes que vous. Mais c'est vrai, on n'a pas le même comportement. Donc, pendant le repas, même si on est, je sais pas, au restaurant avec les amis, là, oui, donc, on discute quelque chose, mais on mange plus qu'on discute. Et là, donc, si on discute, c'est après le repas ou je sais pas, donc pendant la promenade, ou bien on se donne un rendez-vous pour un petit café pour discuter. Mais là, donc, c'est tout à fait autre chose.
Et cette notion du sourire, souvent j'entends dire ça quand... Bah, toi, tu es une Russe qui sourit, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu souris?
Je crois, je souris en réponse. Hein, parce que je vois les gens qui me regardent, qui me sourient, et bah, j'ai mon sourire qui est reflet du sourire d'autres gens. En Russie, c'est pas un mauvais temps, mais c'est un peu bizarre quand les gens qui se connaissent pas, quand ils se sourient. On dirait... Qu'est-ce que j'ai, hein? Pourquoi tu souris? On dirait que quelque chose ne va pas. C'est parce que c'est pas dans l'esprit russe de sourire à quelqu'un que tu connais pas. Si tu souris à quelqu'un, ça veut dire que tu veux attirer attention d'un côté, tu veux faire connaissance avec quelqu'un, ou bien tu connais quelqu'un. Ah, bonjour, comment tu vas? Puisque c'est pas dans notre système, je crois. On sourit pas.
Moi, j'ai cette phrase qui me vient en tête, qui dit que le sourire ne coûte rien, mais apporte beaucoup à celui qui le reçoit.
Ça, c'est vrai, c'est génial comme phrase. Parce que, disons, cette phrase, je crois qu'on pourrait la retrouver dans un dessin animé soviétique qui apprenait aux petits de sourire, d'offrir ton sourire à ton reflet dans l'eau. Et comme ça que tu peux faire tes amis. Voilà. Disons, oui, c'est vrai, donc... Il faut sourire. Il faut le faire. En fait, je crois qu'il faut déjà dépasser cette frontière russe-soviétique plutôt et prendre cette belle habitude, peut-être européenne, peut-être, je sais pas, du monde entier, et casser les stéréotypes russes qu'on a et commencer à sourire. Même si tu es de mauvaise humeur, même si tu as ton salaire qui n'est pas si haut que tu pensais, oublie. Les problèmes, oui, il y a toujours des problèmes. Mais donc, il y a un sourire qui peut, je ne sais pas, faire revivre de bons souvenirs, qui peut changer l'humeur de la personne que tu rencontres, qui peut même changer beaucoup dans la vie.
Le sourire, ça réchauffe le cœur. Ça illumine le cœur, ça fait du bien et c'est gratuit. Et plus on en donne, plus on en reçoit. C'est ça qui est incroyable. C'est quelque chose qui se multiplie quand tu l'offres. Donc maintenant, dès que tu me vois dans le bateau, on va se sourire, d'accord?
Oui.
On va revenir sur ce bateau. Donc effectivement, c'est ici que je te rencontre, dans un bureau. Et tu travailles là, donc depuis une dizaine d'années. En quoi consiste ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Et aussi, comment est-ce que tu es arrivé sur les bateaux? C'est quoi l'histoire? Comment est-ce que tu es sorti de l'école pour te retrouver sur un bateau travailler ici?
Bah, disons que j'ai commencé à travailler ici, donc, il y a 10 ans, pour la compagnie... En fait, on est plutôt embauché par la compagnie russe Vodohod, qui collabore avec CroisiEurope. Par exemple, notre bateau, Chichirin, d'après le contrat qui signe entre Vodohod et CroisiEurope, donc, on a la plupart des passagers, les passagers CroisiEurope. Et là, donc, puisqu'on est francophone, on représente CroisiEurope à bord du bateau. Et disons, c'était la demande de la compagnie Vodohod. Ils ont demandé aux universités linguistiques de proposer ce travail aux étudiants comme pratique. Donc voilà, comme ça, je suis venue à bord du bateau, j'ai commencé. J'ai commencé comme accompagnatrice. Donc, lors des visites, c'est l'accompagnatrice. À bord du bateau, on fait un peu l'animateur, l'animatrice. Et en quoi consiste ce travail? Donc, c'est rencontrer, accompagner les gens à l'aéroport, donner l'information. La première information, puis à bord du bateau, donc on anime, on fait l'animation à bord du bateau, on fait la traduction pour le restaurant, pour la docteur s'il y a le besoin. Mais c'est intéressant comme travail, ça fatigue pas trop, ça donne la possibilité de communiquer, d'avoir cette réaction de communication et disons, de voir de vrais français, français francophones, de pas ce qu'on voit dans les manuels. Vraiment de communiquer et d'avoir leur opinion sur la vie actuelle, sur les Russes et tout ça.
Mais c'est un travail, quand tu fais une croisière, par exemple, là, c'est du 12 jours non-stop. Tu n'as pas de week-end, tu dois être présente tous les jours. Donc en même temps, c'est compliqué d'avoir une vie sociale ou d'une vie familiale.
C'est vrai qu'on travaille sans week-end. On n'a que des heures de repos pendant la navigation. Mais disons, c'est notre choix. Disons, il est possible de signer un contrat pour... une croisière, pour plusieurs croisières, pour un mois, pour la moitié de la saison, même pour toute la saison, ça dépend de ton choix. Voilà. Si, donc, il y a la possibilité, par exemple, si on a des copains, des petits copains, donc on peut s'embaucher à bord du même bateau. Donc là, déjà, un couple, qui travaillent ensemble. C'est possible. Mais il y a aussi, donc, j'ai connu des histoires donc, entre les accompagnatrices, par exemple, les réceptionnistes, avec quelqu'un de l'équipage, qui ont fait connaissance, qui ont travaillé déjà. Et puis, donc, ils se sont mariés après la saison. C'est possible.
Oui,
donc, la première, c'est possible. Mais ce que j'adore, c'est notre collectif, c'est notre directeur. En fait, côté Vodochod, c'est Olga. Elle est magnifique. Elle est déjà une personne en fait, très sympathique. En fait, elle est professionnelle et ça fait 10 ans que je travaille avec elle et j'ai envie de revenir premièrement à cause d'elle. Parce que vraiment, avec elle, c'est génial de travailler. Eric, voilà, Eric lui aussi, donc on se connaît depuis 10 ans, je crois, déjà. Et c'est vrai, voilà, un vrai régal de travailler avec lui parce que lui est déjà un bon professionnel, un bon directeur. Et il sait animer, il sait rendre la croisière comme il faut.
We'll need wood and we will need stones for a brand new house to leave forever, leave the everlasting land.
L'année passée, c'était vraiment marrant. Il y avait une dame qui est venue en fait, toute seule, mais je crois même que sans amis. Elle est venue faire la première croisière qui commençait la saison. Et puis, deux croisières après, j'étais à la réception. Donc, on a les gens qui viennent de l'aéroport. Et elle se jette vers nous à la réception. Voilà les filles, je suis de retour. On a dit, mais c'est pas vrai. Il y a un mois, vous êtes partie. Je suis revenue. Et moi, je suis revenue avec ma... Je crois que c'était sa petite fille ou sa nièce. Je suis pas toute seule, je suis revenue avec quelqu'un. Voilà, donc les gens qui reviennent.
Mais quand est-ce que tu vas t'arrêter? Il y a quand même un jour où tu vas peut-être avoir envie de fonder une famille et faire quelque chose d'autre?
Disons, faire la famille, c'est une question vraiment difficile. J'arrête un jour, je crois. Mais je crois que je serai avec quelqu'un qui est lié à la navigation. Parce que, disons, c'est vraiment important de partager les mêmes intérêts. Parce que s'il y a quelqu'un à côté de moi qui ne s'intéresse pas ni au voyage, ni au bateau, ni à l'eau, ni à la nature, je ne suis pas sûre que je pourrais être avec.
C'est vrai que c'est comme une bulle, être sur un bateau. C'est comme si tu te coupes du monde pendant le temps de la croisière, où tu es dans une sorte de bulle où il se passe des choses un peu hors du temps et hors du monde.
Oui, c'est vrai. En plus, même si on a la connexion, en fait, on a la sortie en fait, sur Internet, on a les portables, on a la télé déjà, l'Euronews, mais des fois, on ne regarde pas, on n'écoute pas, on est vraiment dans une bulle. Oui, c'est vrai. Donc, même nous, donc le personnel, des fois, même on ne sait pas quel jour de semaine c'est. Voilà, donc on dit quel jour c'est. On dit c'est Gorizia ou bien c'est Moscou ou Saint-Pétersbourg. C'est même pas le jour de semaine, mais la ville qu'on visite.
Et toi, ton programme aujourd'hui, tu fais quoi?
Mon programme aujourd'hui, disons que peut-être que j'ai terminé aujourd'hui parce que j'ai déjà quoi? J'ai le cours de français à nos amis russes, puisqu'on a des Russes à bord de bateau cette croisière-ci. Et on était en escale déjà. On a fait le voyage de Gorizia, la promenade pédestre. J'ai traduit parce qu'il y avait un guide russophone. Et bon, voilà, donc je crois pas avoir plein de choses aujourd'hui. Je suis un peu en repos.
Et j'ai envie de savoir combien tu gagnes.
Déjà, en fait, c'est pas grand-chose. C'est déjà, donc, c'est le salaire pour un étudiant, on dirait. Mais on ne le fait pas pour le salaire, mais on le fait pour le plaisir. C'est pourquoi donc, ça s'explique. Alors, le salaire pour nous, c'est aux environs de 15 000 roubles par mois.
Ça fait 600 euros.
Aux environs. Par contre, on est nourri et logé. Donc, voilà, en fait, voilà, c'est 15 000 roubles, c'est direct dans ma poche. Donc, et là, déjà, on a déjà éliminé la somme pour la nourriture et pour le logement. Exact.
Et donc, quand tu auras économisé un peu de sous, tu feras quoi avec?
Je sais pas. Je vais mettre de côté. Voilà, je vais voyager, je crois, oui. Toujours vers la mer Noire, vers les montagnes.
Et t'as pas cette pression sociale et familiale de te dire il est temps de faire des enfants?
Peut-être, oui, disons. C'est pas un secret, j'étais déjà mariée. Actuellement, je suis divorcée. Et j'ai déjà vécu cette expérience. J'ai pas eu d'enfants. Heureusement ou malheureusement, je sais pas. Mais mes parents me posent plus cette question. Voilà, donc, mais moi, en fait, je cherche jamais quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui vient dans ma vie. C'est comme ça. Si ça vient, très bien. Si ça vient pas, c'est comme ça.
Après avoir vu pendant plusieurs années des Français, on va forcément se faire une idée de la France. Et quand tu es arrivé à Paris, qu'est-ce qui t'a... Tu te sentais comme à la maison ou est-ce que tu as quand même été étonné par ce que tu as vu?
Quand je suis venue en France, j'étais pas étonnée, mais j'étais comme dans un conte. Disons, je me suis plongée dans mes rêves d'école quand j'étais encore écolière. Et j'ai vu la Tour Eiffel, j'ai vu l'Arc de Triomphe, et vraiment comme si je rêvais. C'était un jour et demi, mais j'étais hors le monde entier. J'étais dans mon petit compte. Alors, je regardais en fait, les endroits, les curiosités que j'ai étudiées il y a longtemps, dont j'ai lu pas mal de choses. Disons, je flottais. Voilà, c'est comme si j'étais, un papillon. Je regardais les choses comme ça.
Merci à toi, Angela.
Merci, Alex.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.